Marcel Schwab, Essai de paradoxe sur le rire. Edgar Poe a écrit dans un conte que personne n'a voulu traduire. Savez-vous qu'à Sparte, qui est aujourd'hui Palakokori, à l'ouest de la citadelle, parmi un chaos de ruines à peine visibles, émerge un socle où on peut encore lire les lettres AAEM. C'est évidemment la mutilation de Ea Emma. Or, à Sparte, 1000 temples et autels étaient consacrés à 1000 divinités diverses. N'est-il pas étrange que la stèle du rire ait survécu à toutes les autres? J'imaginerais volontiers que la lointaine postérité ne retiendra au milieu des décombres littéraires de notre temps que deux ou trois excellentes plaisanteries. On ne retrouve plus sur les rives de l'Eurotas cette lourde et lugubre monnaie de fer dont les lacédémoniens se servaient pesamment. Leurs dieux ont disparu, et il devait y en avoir de fort célèbres. Sans doute, les offrandes que les Doriens firent aux dieux rire étaient payées avec ces pièces graves. Semblablement, de quelle grosse monnaie de roman aurons-nous acheté les petits livres qui émergeront peut-être de notre océan de papier noirci? Quand les dieux septentrionaux se seront écroulés, quelques milliers d'années après les dieux de Grèce et d'Italie, on ne retirera même pas de nos ruines le socle du dieu rire, et il faudra s'en aller en Chine pour admirer l'idole en bois de la miséricorde. Le rire est probablement destiné à disparaître. On ne voit pas bien pourquoi, entre tant d'espèces animales éteintes, le tic de lune persisterait. Cette grossière preuve physique du sens qu'on a d'une certaine inharmonie dans le monde devra s'effacer devant le scepticisme complet, la science absolue, la pitié générale et le respect de toute chose. Rire, c'est se laisser surprendre par une négligence des lois. On croyait donc à l'ordre universel et à une magnifique hiérarchie de causes finales. Et quand on aura attaché toutes les anomalies à un mécanisme cosmique, les hommes ne riront plus. On ne peut rire que des individus. Les idées générales n'affectent pas la glotte. Rire, c'est se sentir supérieur. Quand nous ferons à genoux dans les carrefours des confessions publiques, quand nous nous humilierons pour mieux pouvoir aimer, le grotesque sera au-dessus de nous. Et ceux qui auront apprécié l'identique valeur, en dehors de toute relativité, de leur moi et d'une cellule composante ou solitaire, sans comprendre les choses, les respecteront. La reconnaissance de l'égalité entre tous les individus de l'univers ne fera pas hausser les lèvres sur les canines. Voici comment on pourra interpréter dans ce temps un jeu aboli du visage. Cette espèce de contraction des muscles zygomatiques était le propre de l'homme. Elle lui servait à indiquer en même temps son peu d'intelligence pour le système du monde et sa persuasion qu'il était supérieur au reste. La religion, la science et le scepticisme du temps futur ne contiendront qu'une faible partie de nos pénibles idées sur ces matières. Il est certain toutefois que la contraction des muscles zygomatiques n'y aura point de place. J'aimerais donc à désigner à ceux qui s'éprendront des choses d'autrefois l'œuvre qui excita dans notre époque barbare la plus grande somme de ce rire disparu. Je sais qu'on s'étonnera de la bouche convulsée, des yeux larmoyants, des épaules secouées, du ventre saccadé, ainsi que nous nous étonnons nous-mêmes pour les singuliers usages des premiers hommes. Mais je supplie les personnes éclairées de réfléchir au grand intérêt que représente un document historique, de quelque ordre qu'il soit. Quand le rire, donc, aura disparu, on en trouvera une représentation complète dans les œuvres de Georges Courteline et en particulier dans ses livres « Le train de 8h47 »,« Potiron », L'idoire et la biscotte, Boubouroche, les ronds de cuir. Cette représentation du rire sera complète, car elle unit le comique des anciens à la variété d'hilarité qui fut spéciale au XIXe siècle. Nous ne savons pas depuis quand l'incohérence dans la vision des choses amenée par la confusion du langage ou de l'intelligence excite la gaieté des hommes. Avant l'ère chrétienne, déjà, le Carthaginois de Plaute réjouissait le public quand les deux Romains jugeaient dans son baragouin Me Barboca qu'il devait se plaindre d'avoir mal à la bouche. Il n'est pas moins plaisant d'entendre Piégelé, dans le rôle de Roland, répéter « Salut au nez creux » lorsqu'on lui souffle « Salut au mépreux ». La farce des deux esclaves qui interprètent un oracle inintelligible dans Les Chevaliers d'Aristophane n'est pas très différente de celle des deux dragons qui examinent sur le quai d'Orsay l'obscur problème du numéro 26 où demeure Marabout. Le père soupe fait cuire son chocolat, se lave les pieds, va accomplir ses petits besoins avec l'innocente naïveté de Strepsiade et raisonne un peu comme lui. Cependant, la distinction essentiellement moderne entre le sujet et l'objet nous permet un rire particulier. Le dialogue qu'imaginait Ésope entre un renard et un masque de théâtre n'était pas comique. On pouvait supposer, même avec mélancolie, que des pierres et des arbres suivaient un musicien qui jouait de la lyre. Mais les gens du XIXe siècle rient du Jack de Mark Twain, qui attend sous un soleil brûlant qu'une tortue de Palestine veuille bien se mettre à chanter. Ils rient encore, si Courteline leur raconte qu'un fou essaie de faire de mauvaises plaisanteries à des fromages mous. Ils rient toujours du récit suivant, Voyage aux îles Bermudes. Aux îles Bermudes, on ne trouve pas d'insectes ou de quadrupèdes dignes d'être mentionnés. Les habitants prétendent que leurs araignées sont grandes. J'en ai pas vu qui dépassât les dimensions d'une assiette à soupe ordinaire. Un matin, le révérend L, qui voyageait avec moi, entra dans ma chambre, une bottine à la main. « Cette bottine est à vous, dit-il. « Oui, répondis-je. « J'en suis heureux, reprit-il. Figurez-vous que je viens de rencontrer une araignée qui l'emportait. Le lendemain, au point du jour, cette même araignée soulevait ma fenêtre à tabatière afin de venir prendre ma chemise. « Elle a emporté votre chemise ?»« Non. Comment avez-vous pu voir qu'elle venait l'emporter ?»« Je l'ai vue dans son œil. » J'ai cité cette simple anecdote parce qu'elle me semble révéler les deux faces du rire. Première face, nous nous étonnons de voir un insecte classé avec des quadrupèdes et nous sommes vivement frappés de la contradiction qu'il y a entre la grandeur des araignées que nous connaissons et celle d'une paire de bottines ordinaires. Deuxième face, l'absurdité de supposer dans une araignée l'intention préméditée de prendre des objets dont nous nous servons seuls et d'imaginer qu'on a vu cette disposition dans son œil, ce qui nous ramène à la première face, excite notre hilarité. Et je dis que, dans notre temps, cette seconde forme du comique nous affecte spécialement. Les hommes ont pris conscience de leur moi avec excès. La simple idée qu'on pourrait attribuer à un objet ou à une bête les habitudes personnelles de l'âme humaine leur apparaît grotesque. Courteline nous a montré le capitaine Lurluret, qui menace de se changer en moulin à café ou en saladier. Et Larrier promet à Soupe d'opérer sur lui une vague métamorphose du même genre. Les personnages des Mille et Une Nuits craignaient ces choses, qui se produisaient volontiers à une époque où la personnalité de l'homme n'avait pas été violemment séparée des objets par Kant. Aujourd'hui, le moi, glorieux, se moque de cette vaine parodie. Fréquemment, on trouvait autrefois dans les asiles des fous accroupis, qui se croyaient peau d'argile et d'autres qui s'imaginaient fromage de Cordoue, vous offraient le couteau à la main une tranche de leur mollet. D'autres encore qui fumaient comme des théières, moussaient comme des bouteilles de champagne, se pliaient comme une chemise fraîchement blanchie. Les statistiques nous apprennent que cette folie est devenue extrêmement rare. Il n'en faut pas chercher d'autre cause que le progrès de la conscience. Même les fous ont de la personnalité une trop haute idée. Les biographes du poète américain Walt Whitman disent que personne ne le vit rire une seule fois dans sa vie. C'était un homme doux et gai qui comprenait toutes choses. Les anomalies n'étaient pas pour lui des miracles de l'absurde. Il ne se croyait supérieur à aucun être. On peut mettre aux deux termes de l'humanité Philémon, qui mourut de rire en voyant un âne manger des figues, et ce grand poète, Walt Whitman. Notez que Philémon ne rit avec tant d'excès que parce qu'il était certain d'être supérieur à un âne, étant poète, et que cet âne, si différent de Philémon, mangeait le même dessert que lui. Nous avons un portrait de Walt Whitman où ce vieux poète paralysé, le visage grave, seconde l'erreur d'un papillon qui s'est posé sur son bras comme sur un tronc d'arbre mort. Les tics de l'humanité ne sont pas immuables. Même les dieux changent quelquefois. On a déjà changé de manière de rire. Sachez avec constance prévoir un âge où on ne rira plus. Ceux qui voudront modeler leur visage sur cette contraction s'imagineront très bien ce que pouvait être une habitude disparue en lisant les livres de Georges Courteline. Que ceux qui veulent rire maintenant se hâtent de se réjouir en parcourant la série de tableaux qui composent ce volume. Nous n'en sommes pas encore à chercher le socle du dieu rire au milieu des ruines. Le dieu rire habite parmi nous. Quand nos statues seront tombées, nos coutumes abolies, quand les hommes compteront les années dans une ère nouvelle, ils se diront de celui qui sut nous rendre si joyeux cette simple légende. C'était une charmante petite divinité, fine et bonne, qui vivait dans Montmartre. Elle avait tant de grâce que les gros mots, cherchant un sanctuaire indestructible, le trouvèrent dans son œuvre.